Bonsoir à tout le monde. Pour ce moment d'étude, nous serons toujours dans le livre des Hébreux, l'Épître aux Hébreux, au chapitre 5, le verset 11, et nous lirons jusqu'au chapitre 6, le verset 3. Juste pour rappeler un peu où nous en étions dans l'étude des Hébreux la semaine passée, nous avons vu comment l'auteur aux Hébreux aborde le sujet du souverain sacrificateur dans l'alliance mosaïque et explique comment Christ accomplit lui aussi le rôle de souverain sacrificateur, mais de manière plus parfaite et plus complète. Et donc, c'est ce qu'on a au tableau ici. On a vu donc cette comparaison entre l'œuvre d'Aaron et puis de ses successeurs dans l'alliance mosaïque et de Jésus et comment lui, il accomplit ce rôle. Et c'est intéressant si on relit le chapitre 5 au verset 6 et au verset 10, hein, deux fois l'auteur annonce que Jésus est le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Et cela nous amène à notre passage de ce soir, parce que l'auteur a vraiment envie de parler plus de Melchizedek, mais il y a un problème hein, chez les chrétiens à qui il est en train d'écrire. Et ils se sont obligés de faire un détour hein, pour aborder un grave problème chez ces chrétiens. Et donc, il va faire ce détour, un excursus en quelque sorte, jusqu'à la fin du chapitre 6, pour parler de ces problèmes spirituels qui sont là, avant de pouvoir enfin revenir. Et il dit à la fin du chapitre 6 qu'il va parler enfin de Melchizedek. Donc on commence ici la première partie de ce détour d'enseignement, mais qui est quand même fondamental. Donc lisons Hébreux 5, 11 jusqu'à 6, 3. À ce sujet, nous avons beaucoup à dire et des choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Alors que vous devriez, avec le temps, être des maîtres, vous avez de nouveaux besoins qu'on vous enseigne les premiers principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venu à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux qui, par l'usage, ont le sens exercé au discernement du bien et du mal. C'est pourquoi, laissant l'enseignement élémentaire de la parole de Christ tendant vers la perfection, sans poser de nouveau le fondement, repentance des œuvres mortes, foi en Dieu, doctrine des baptêmes, imposition des mains, résurrection des morts et jugement éternel. C'est ce que nous allons faire, si Dieu le permet. Alors, nous voyons ici, à mon avis, ce qui est la première vraie critique directe de ces chrétiens qui reçoivent la lettre. On se doutait qu'il y avait des problèmes chez eux, parce qu'à plusieurs moments jusqu'à maintenant, il y a des avertissements assez sérieux qui sont adressés aux chrétiens. Mais on n'a pas encore vraiment vu une attaque direct en quelque sorte contre leur comportement ou leur état spirituel. Mais ici, l'auteur se sent obligé d'être très direct et assez dur avec eux pour parler de leur état spirituel. Et quel est le problème pour eux? Là, je vous pose la question. Ouais. Quelle est la difficulté chez ces chrétiens?
Gamin dans la foi.
Ok, ils sont gamins dans la foi, ils sont à l'état d'enfant spirituel dans leur connaissance, leur compréhension. Hein, des oracles de la parole de Dieu, mais ils devraient être des adultes spirituels. Et ça, c'est vraiment le problème. Ce n'est pas tant l'immaturité spirituelle, parce qu'on doit tous passer par un stade d'immaturité dans la foi avant de grandir, mais plutôt le fait qu'ils sont restés dans l'immaturité spirituelle, ou encore pire peut-être, ils sont retournés à l'immaturité spirituelle. Le manque de connaissances en tant que tel n'est pas le problème. D'accord? Mais le problème, c'est qu'ils ont régressé ou ils sont restés dans cet état spirituel vraiment faible qui est là. Et l'auteur aimerait vraiment, il a vraiment envie de parler de Melchizedek. D'accord? Il a envie de passer à ces choses, mais il ne peut pas. Et il dit, hein, j'ai beaucoup à dire sur ce sujet, c'est comme quand j'ai envie d'enseigner sur le Lévitique. Mais il craint que ce sera difficile pour eux parce que, et puis il va commencer cette succession de critiques. Au chapitre 5, le verset 11, il dit qu'ils sont devenus lents à comprendre. Et le mot long à comprendre peut aussi vouloir dire paresseux dans l'écoute. Et c'est peut-être dans ce sens-là qu'il faut prendre ce texte, vu le fait qu'il est en train de les critiquer. Ce n'est pas juste qu'ils sont bêtes, mais qu'ils ont de la paresse. Ils n'ont pas cette envie d'apprendre et de connaître de la parole de Dieu. Et on a peut-être ici un écho, même si Jésus n'utilise pas les mêmes mots, mais un écho des critiques que Jésus faisait à ses apôtres, n'est-ce pas? Eux aussi qui étaient lents à comprendre, qui étaient lents à écouter ce que Jésus avait à leur dire au sujet des Écritures. L'auteur dit au verset 12 qu'ils ont un nouveau besoin qu'on leur enseigne les premiers principes élémentaires des oracles de Dieu. Là, les oracles, c'est les paroles de Dieu. Ils n'ont pas seulement délaissé la croissance spirituelle, mais ils ont régressé. Les fondements, la base qu'ils étaient censés avoir est en train de disparaître. Et donc, il faut non seulement leur dire il faut progresser, mais il faut reposer les fondements qui devaient être solides. Et à cause de ça, et ça on verra la prochaine fois, même leur salut est en danger. L'auteur est confiant qu'ils vont rester fidèles, mais cette perte des fondements de la foi met en danger leur relation avec Dieu. Et donc, plutôt que de leur donner une formation plus grande, on se sent parfois obligé ici de revenir au premier principe élémentaire. Et ça veut vraiment dire la base, le fondement. Au verset 12 aussi, vous en êtes venu à avoir besoin de lait. Et le lait, vous le savez bien, bon, c'est pour les bébés, bon, c'est aussi pour les adultes. Moi, j'aime bien un verre de lait. Mais l'idée là, c'est que leur alimentation principale, c'est du lait. Et le lait, ce n'est pas la nourriture des adultes, d'accord? C'est la nourriture des bébés. Même Eric, qui a 12 mois, il mange plus que du lait depuis longtemps, d'accord? Il fait autre chose. C'est intéressant, Paul utilise le même langage dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 7. Si vous venez aux études qu'on a avant le culte, on en parle aussi, pour critiquer les chrétiens de Corinthe. Il dit « je dois vous donner du lait au niveau de l'enseignement parce qu'ils ne sont pas capables de supporter ce qui est plus profond, ce qui est plus avancé ». Et donc le lait, c'est vraiment cette idée de ce qui est pour les bébés spirituels. Ils ne sont pas capables de supporter cette nourriture spirituelle. Et puis finalement, au verset 13, il dit qu'ils n'ont pas l'expérience de la parole de justice et qu'ils sont des enfants. Bon, qu'est-ce qu'il veut dire ici par l'expérience de la parole de justice? Bon, sans doute ici, c'est l'opposé de ce qui est décrit au verset 14, le discernement moral, le discernement entre ce qui est bien et ce qui est mal. Ils en sont encore à ceux qui n'ont pas l'expérience de la parole, qui ne savent pas l'appliquer à la vie. Et c'est intéressant, l'auteur ici utilise une structure en trois parties pour parler de la maturité spirituelle. La première étape, c'est l'enfance, d'accord? C'est l'état de bébé, de nouveau-né spirituel. Mais ensuite, il y a l'adulte, l'homme fait, qui est capable de discerner entre le bien et le mal. Et puis au chapitre 6, le verset 1, il va dire « ensuite on tend à la perfection ». D'accord ? Et ces trois étapes, l'enfance, l'état adulte où on a le discernement pratique et moral, et puis la perfection, ça correspond à ce qu'on trouvait dans beaucoup d'écoles de philosophie de l'époque, aussi pour parler de la maturité dans la vérité, dans la connaissance. Bébé, discernement moral, et puis la perfection. Et là, l'auteur l'applique à la vie chrétienne. En disant, vous devez être au minimum des adultes spirituels, on a envie de tendre à la perfection, mais le problème, c'est qu'on est coincé à l'état de bébé qui est là. Bon, quelles sont les conséquences de cet état spirituel immature? Bon, c'est de la peine et de la difficulté à comprendre les choses spirituelles qui étaient importantes pour eux. Il ne peut pas facilement leur parler de Melchizedek, même s'il devrait pouvoir l'entendre. C'est la perte donc, des fondements de la foi qui vont mettre en danger leur fidélité à Christ. Et puis, c'est cette perte aussi de discernement moral. Donc, les conséquences ici sont vraiment graves. Et j'aimerais souligner que le passage ici insiste sur le besoin de grandir dans la connaissance de la parole de Dieu et dans la compréhension de la parole de Dieu et des oracles et de l'enseignement qui est là. Que le chrétien ne peut pas rester bébé dans sa vie spirituelle, même dans la connaissance et dans la compréhension de la parole de Dieu. Ce serait un peu comme, je ne sais pas si vous savez, donc j'ai deux enfants, Mariana et Eric, et parfois on doit dire à Mariana, qui a 2 ans et demi, d'arrêter de se comporter comme Eric, qui a 1 an. Parce qu'elle voit que Eric a de l'attention parce qu'il est un bébé, et puis alors elle va se comporter comme un bébé, peut-être elle se met par terre, elle fait « ouais, ouais, ouais ». Et c'est assez ridicule de voir une fille de 2 ans et demi se comporter comme un bébé. D'accord? Pour combien plus un adulte de 40 ans qui se comporterait comme un bébé? Vous voyez le problème qui est là. Déjà, quand il y a un décalage d'1 ou 2 ans dans le comportement, dans la vie de tous les jours, on voit qu'il y a un problème. Bon, ici, le problème que l'auteur décrit, c'est un décalage de décennies peut-être dans la vie spirituelle. Et vous savez, un adulte qui se comporte comme un bébé, ce n'est pas mignon. Okay? Ce n'est pas chou, c'est grotesque comme comportement. Et donc, c'est vraiment une critique très, très, très forte, très, très, très dure, mais qui est nécessaire parce qu'ils sont en danger spirituellement. Et nous ne voulons pas être des bébés au niveau de notre maturité spirituelle, de notre connaissance de Dieu. Et il y a cet appel à la croissance. Bon, 2 remarques qui vont avec ça. La première, c'est que la connaissance et la compréhension de la parole n'est pas tout. Ce n'est pas ça l'ensemble de la maturité spirituelle. John en a déjà parlé, mais les œuvres pratiques, la mise en pratique de la parole, les bonnes œuvres, font partie de la maturité spirituelle. Écoutez ce que Jacques écrit dans Jacques chapitre 1, les versets 22 à 25. Il dit « Pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement, en vous abusant par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la pratique pas, il est semblable à un homme qui se regarde dans un miroir, son visage naturel, et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il est. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui persévère non pas en l'écoutant pour l'oublier, mais en la pratiquant activement, celui-là sera heureux dans son action même. » Et avec l'idée de plonger son regard dans la loi, de grandir dans la connaissance, de grandir dans la compréhension, il faut avoir la pratique, la mise en pratique de la parole. Sans cela, bon, c'est comme quelqu'un qui regarde le miroir et il ne sait pas à quoi il ressemble. Donc la maturité spirituelle nécessite la mise en pratique. Elle nécessite aussi l'amour. Paul dit dans 1 Corinthiens 13, verset 2, « Quand j'aurai la capacité de parler en prophète, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même la foi qui transporte les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Et donc, de grandir dans l'amour, ce qui n'est pas seulement l'affection pour les gens, mais de désirer le bien de notre prochain, de nos frères et sœurs dans la foi, et de faire grand cas de Dieu, ça c'est nécessaire pour la maturité. Et une connaissance sans amour est morte, ne sert à rien. La prière, elle aussi est nécessaire. Une vie de prière où on se donne à Dieu. Et sans ces choses, sans l'amour, sans la prière, sans les œuvres pratiques, bon, cette grande connaissance ne fera pas de nous des adultes spirituels. D'accord ? J'aimerais vraiment souligner cela. En fait, ça peut devenir même un danger qui peut mener à l'arrogance spirituelle. Et comme j'ai mentionné à Corinthe, le problème mentionné dans 1 Corinthiens 8, verset 1, où Paul dit « La connaissance enorgueillit ou fait enfler d'orgueil, mais l'amour édifie. » Donc, la maturité spirituelle chrétienne ne se résume pas par la connaissance, ni par la compréhension, la capacité d'étudier la Bible ou de l'enseigner. Et ça, c'est la première chose qu'il faut souligner. Mais en même temps, la maturité spirituelle nécessite une connaissance de la parole. La compréhension et l'étude de la parole de Dieu, la capacité à la comprendre et à l'enseigner est nécessaire pour une maturité spirituelle. Ce n'est pas quelque chose de facultatif. Je ne vois pas comment on peut lire ce passage et conclure, bon, une fois que je suis sauvé, je peux laisser ma vie spirituelle de côté, laisser ma soif de la parole de Dieu de côté. Nous avons tous besoin de grandir dans notre connaissance de qui est Dieu et de ce qu'il nous dit, de grandir dans notre capacité de discerner et de réfléchir aux choses de Dieu. Cette connaissance spirituelle était requise de la part des chrétiens qui ont reçu la lettre. Et parce qu'ils n'ont pas progressé dans ces choses, ils sont critiqués pour cela. Et donc, par conséquent, nous voulons rester attachés au fondement, n'est-ce pas, au message de Christ, aux bases. Et on ne laisse ça jamais de côté. Mais nous ne voulons pas non plus rester au fondement et se limiter à cela. Si nous ne cherchons pas à grandir, en fait, la Bible nous dit que le danger, c'est de perdre les bases qui sont là. Et sans cette croissance, nous serons spirituellement appauvris nous-mêmes et nous risquons d'appauvrir les autres autour de nous. Et je ne veux pas trop insister là-dessus parce que ce n'est jamais dit directement dans la Bible, mais il semblerait, quand on lit dans les Écritures, qu'il y a seulement deux états spirituels qui existent, soit la croissance spirituelle, soit la régression. Mais que l'idée qu'on peut arriver à un plateau et puis tout va bien et que rien ne change, on ne trouve pas ça vraiment dans la parole. Soit on est appelé à grandir ensemble et continuellement, soit on est en train de régresser. Mais il ne semble pas qu'il y a cette idée où je suis à un état suffisant dans ma foi et puis je vais laisser les choses telles qu'elles sont. Il n'y a pas une vitesse de croisière, en quelque sorte, mais juste une idée à méditer. Bon, qu'est-ce que ça change d'avoir cette croissance spirituelle? Pourquoi grandir dans la connaissance et dans la compréhension des choses de Dieu? Pourquoi est-ce que c'est nécessaire? J'aimerais juste partager avec vous quatre idées qui sont importantes, quatre choses qui peuvent changer dans nos vies lorsque nous grandissons dans la connaissance. La première chose, c'est que Dieu ne veut pas qu'on suive le raisonnement ou la pensée ou la logique de la chair, d'accord, c'est-à-dire la pensée humaine séparée de Dieu, mais qu'on suive la pensée de l'esprit. Et cela implique beaucoup de choses. Mais entre autres, c'est la connaissance plus approfondie, la réflexion et le temps passé à lire la Bible, à méditer la parole de Dieu. Et il faut acquérir cette connaissance. C'est dans Romains 12 que Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et le passage dans 1 Corinthiens 2, où Paul est en train de critiquer les chrétiens en disant « je dois vous donner du lait », c'est de nouveau la même chose. Ils sont en train de suivre la chair plutôt que suivre l'esprit. Et donc, suivre la chair, c'est vraiment suivre une mentalité, une manière de penser, une manière d'agir, une manière de voir le monde qui est contraire à Dieu, où Dieu n'a aucune place. Mais suivre l'esprit, c'est de mettre Dieu au centre et de penser comme Dieu pense. Et pour cela, il faut la nourriture solide spirituelle. Le lait, les bases sont bonnes, mais pas suffisantes. Il faut une croissance qui est là. Et nous voulons que notre logique, que notre manière de penser, notre manière de voir le monde soit transformée par Dieu. Et cela passe par donc une croissance spirituelle dans la connaissance et de la compréhension de la parole. Mais une deuxième chose, c'est que nous voulons grandir dans cette maturité, parce que la Bible elle-même, la parole de Dieu, n'est pas toujours simple à comprendre. Je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte, mais c'est certainement le cas. On tombe souvent sur des passages et on se dit « mais je me demande ce que cette personne voulait dire ». C'est intéressant, c'est vrai pour les non-croyants ou les bébés croyants, mais même ceux qui sont plus matures. L'apôtre Pierre lui-même dit aux chrétiens dans 2 Pierre chapitre 3, c'est au verset 15 et 16, qu'il y a des choses difficiles à comprendre dans les Écritures. Il dit « croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes ses lettres où il parle de choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dans les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. » Et là, en parlant de Paul, il dit « bon, il y a des choses difficiles à comprendre, donc si c'est difficile à comprendre, il faut faire un effort pour le comprendre. » Et la mauvaise conséquence, c'est que certains tordent le sens de ces passages et du reste des Écritures. Mais que faire quand on tombe sur des passages difficiles? Bon, une croissance spirituelle, une plus grande maturité dans la parole de Dieu nous aide à les comprendre. Et Melchizedek, ce qu'on va voir, c'est un de ces passages difficiles à comprendre. Et nous voulons que toute la parole de Dieu nous parle, pas seulement les choses faciles. Ce n'est pas pour critiquer ce qui est facile, mais pour avoir cet état d'adulte spirituel. Bon, troisièmement, nous voulons grandir pour pouvoir distinguer entre le vrai et le faux dans ce qui est enseigné. Nous ne devons pas passivement accepter ce qui nous est enseigné. Et vous ne devez pas passivement écouter ce que je dis sans regarder les Écritures par vous-même, y réfléchir par vous-même. Nous voulons toujours comparer ce qui est enseigné à ce qui est dit dans les Écritures. Et c'est intéressant, dans le livre des Actes, les chrétiens ou les juifs de Bérée sont salués parce que lorsqu'ils entendent la parole de l'évangile qui est prêché, ils ouvrent les Écritures pour voir si c'est vrai. Et ça leur permet de voir non pas le mensonge dans ce qui est enseigné, mais la vérité. Et une maturité spirituelle, c'est pas juste dire « ça c'est faux, ça c'est faux, ça c'est faux », mais aussi pour dire « ça c'est vrai et je m'en rendais pas compte ». Et c'est de nous ouvrir à la parole de Dieu, pas seulement de nous fermer aux choses qui sont fausses. Bien entendu, ça donne le discernement aussi pour les choses qui ne sont pas vraies. Dans Éphésiens 4, verset 14, Paul parle de la croissance spirituelle dans toutes les manières et il dit « ainsi, nous ne serons plus des enfants, flottant et entraîné à tout vent de doctrine, joué par les hommes avec leur fourberie et leurs manœuvres séductrices. » Et nous ne voulons pas être des chrétiens qui croient quelque chose de nouveau tous les deux mois, okay, qui changent complètement de vision de qui est Dieu et de la parole sans arrêt. Et c'est vraiment cette idée d'être des feuilles qui sont emportées par le vent, qui n'ont aucune fondation. Bon, finalement, donc, si on veut pouvoir discerner entre ce qui est vrai et ce qui est faux, si on veut pouvoir avoir cette pensée de l'esprit. Et si on veut comprendre les textes difficiles, il y a une quatrième chose aussi. Et c'est cette croissance dans la parole de Dieu, dans sa connaissance, nous permet à l'enseigner à d'autres. Dieu veut qu'on fasse plus que garder la parole pour nous-mêmes. Ce qui est une bénédiction pour nous est une bénédiction pour ceux qui sont autour de nous. Et c'est vrai qu'on n'est pas tous appelés à être des évangélistes ou des enseignants d'une manière formelle. Mais nous avons l'occasion de partager la parole autour de nous. Pierre dit aux chrétiens dans 1 Pierre chapitre 3 verset 15 « Soyez toujours prêts à vous défendre quand quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, mais faites-le avec douceur et avec crainte. » Et Pierre ne dit pas donc de se défendre, c'est quelqu'un nous demande pourquoi on croit et puis on les frappe. D'accord ? C'est on se défend, on donne les raisons, on explique ce que nous croyons et pourquoi nous croyons. Et ça, c'est pas juste pour les anciens ou juste pour les prédicateurs ou juste pour les évangélistes, c'est pour tout le monde. Que nous ayons une foi assez mature pour pouvoir l'expliquer et la transmettre à d'autres. De nouveau, peut-être pas comme un enseignant, mais au minimum à nos enfants, à ceux qui sont autour de nous. Et parfois, ça prend beaucoup d'efforts. Si vous êtes un peu avec les enfants de John et Sophie, vous savez qu'ils vont vous poser des questions sur Dieu très difficiles et qui nécessitent beaucoup de maturité. Et parfois, je dois dire, écoute, je vais y réfléchir, je vais étudier, et puis on va en reparler. Mais lorsqu'on se prive soi-même de maturité spirituelle, on ne peut pas aider ceux qui viennent à nous avec des questions. Et Dieu nous donne sa parole pour les autres, pas juste pour nous-mêmes. Bon, voilà comment Dieu, c'est certaines manières, il y en a sans doute plus, mais certaines manières dont Dieu peut se servir de notre maturité spirituelle. Et si nous ne l'avons pas, bon, on est faible dans notre foi, on est à risque de tomber, on a de la peine à discerner, on lit la Bible et on est plein de confusion plutôt que d'être édifié. On n'apprend pas à voir le monde et à réfléchir comme Dieu le fait, et on est incapable de le partager avec d'autres. Bon, comment grandir? Juste trois idées pour terminer. Premièrement, c'est de se saturer de la parole de Dieu. De passer du temps en dehors des moments de culte ou d'études bibliques ensemble, où vous êtes en train de lire la parole de Dieu, lire la Bible, et d'y réfléchir pour grandir. En parlant de lait, dans 1 Pierre 2, versets 2 et 3, Pierre dit « Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait non frelaté de la parole, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. » Et ici, Pierre parle de lait à ses chrétiens, et probablement, ce n'est pas pour les critiquer. Soit ils sont jeunes dans la foi, et donc ils ont besoin de ce lait, soit il est en train juste de dire « il faut désirer la parole comme les bébés désirent du lait ». Et c'est cette notion de désir qui est présent. Mais dans les deux cas, le but, ce n'est pas de parler de l'immaturité, mais de dire « il vous faut désirer la parole de Dieu ». Parce que c'est grâce à cette parole que vous allez pouvoir grandir. Il dit que par lui, vous croissiez pour le salut. Tout comme un enfant cherche à être nourri, à nous, c'est en regardant la parole, en la lisant, en s'y ouvrant qu'on peut grandir. Et cela nous ramène à ce qu'on a vu il y a deux semaines dans Hébreux 4, et versets 12 à 13, où il dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus acérée qu'aucune épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle est juge des sentiments et des pensées du cœur. Il n'y a aucune créature qui soit invisible devant lui. Tout est mis à nu et terrassé aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Et donc, lorsque nous ouvrons la parole de Dieu, nous ouvrons aussi notre cœur à être attaqué, coupé par cette épée, mais aussi à grandir. Et donc, il faut s'ouvrir à la parole. Il faut aussi prier pour la compréhension et pour la croissance spirituelle. Les psaumes sont un exercice, je crois, pour nous apprendre comment lire la parole. Elles sont pleines de gens qui prient à Dieu pour plus de compréhension. Et juste quelques extraits du psaume 119 qui parle de ça. Au verset 27, le psalmiste dit « Fais-moi comprendre la voie de tes statuts et je méditerai sur tes merveilles. » Au verset 34, il dit « Donne-moi de l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. » Au verset 73, il dit « Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. » Et au verset 125, il dit « Je suis ton serviteur, donne-moi l'intelligence pour que je connaisse tes préceptes. » Et sans arrêt, il prie, il dit « Donne-moi ces capacités intellectuelles pour comprendre et pour mettre en pratique. » Et il est en train de prier. Pourquoi est-ce qu'il prie? Parce qu'il sait que tout seul, il ne va pas y arriver. Il sait qu'il a besoin de l'aide de Dieu. Ce n'est pas une prière inutile qui est ici. Ce n'est pas juste des paroles pieuses. Mais il y a un besoin de Dieu. Et donc Jacques dit dans Jacques 1, 5, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. » Si nous voulons grandir dans la compréhension de la parole, il faut prier à Dieu pour cela et que la prière accompagne notre lecture. Bon, la dernière chose finalement, c'est nous avons besoin de l'Église. Et ça, on voit dans Éphésiens 4, versets 11 à 16, où Paul va parler de cette croissance spirituelle. Et il dit que Christ, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants, flottants et entraînés à tout vent de doctrine, joués par les hommes avec leur fourberie et leurs manœuvres séductrices. Mais en disant la vérité avec amour, nous croîtrons tous, à tous égards, en celui qui est le chef, le Christ. De lui, le corps tout entier, bien ordonné et cohérent, grâce à toutes les jointures qui le soutiennent fortement, tire son accroissement dans la mesure qui convient à chaque partie et s'édifie lui-même dans l'amour. Et de nouveau, là, Paul parle de quelque chose de plus large que simplement la connaissance. Il parle de la connaissance de Dieu et de la parole, il parle de l'amour, il parle des œuvres du service. Donc, c'est toutes ces différentes choses qui sont ensemble. Mais lorsqu'elles sont ensemble, l'Église progresse. Et l'Église, c'est un lieu, c'est une communauté de culte et de prière. C'est une communauté pour faire le bien et pour s'entraider les uns les autres. Mais c'est aussi l'endroit que Dieu nous a donné, la communauté que Dieu nous a donnée pour grandir dans la connaissance de Christ et de Dieu lui-même. Et donc, juste que vous sachiez, si vous voulez prendre du temps pour étudier avec papa ou avec moi, nous sommes là pour vous. Si vous voulez partager avec un autre frère ou une autre sœur dans l'Église en disant « Est-ce qu'on peut lire la Bible ensemble? Est-ce qu'on peut prier ensemble ?» Pourquoi ne pas le faire si vous ne le faites pas encore? Ou si vous voulez juste des suggestions ou de l'aide pour « Est-ce qu'il y a des bons livres à lire qui peuvent nous aider à mieux connaître Dieu? Est-ce qu'il y a des ressources qu'on peut utiliser ?» L'Église existe, entre autres, pour nous aider à grandir, un peu comme un camp d'entraînement pour le ciel et pour cette présence de Dieu que nous attendons ensemble. Bon, la question pour nous, lorsque nous lisons ce texte, c'est pas juste comment étaient ces chrétiens, mais est-ce que nous sommes des bébés dans notre foi, ou est-ce que nous sommes en train de grandir dans la maturité? Si on est dans cet état de stagnation spirituelle, l'appel pour nous, c'est de grandir et de recevoir ces bénédictions de Dieu et de devenir ainsi une bénédiction pour les autres.